Bonjour Djamila Benhabib.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous êtes auteur, vous êtes une ardente militante de la laïcité. Le 9 décembre, aujourd'hui donc, est la date anniversaire de la loi de séparation de l'Église et de l'État en France, la fameuse loi de 1905. Et cette année, le gouvernement a demandé aux enseignants d'organiser des actions de sensibilisation dans les établissements sur cette question de la laïcité. Qu'est-ce que vous auriez, vous, envie de dire à un élève ou à des élèves avec lesquels il est parfois aujourd'hui très très difficile d'aborder ce sujet?
Bah écoutez, je pense que revenir à l'histoire me semble essentiel, avec une fenêtre sur le monde, c'est-à-dire attirer leur attention sur les difficultés que rencontrent les populations, les sociétés qui n'ont pas encore tranché cette question-là. Si je prends l'exemple de l'Irak, par exemple, qui vit une guerre absolument terrible, en raison de la multiconfessionnalisation de l'espace public, eh bien, c'est une façon de faire le lien entre le passé et le présent. C'est une façon aussi d'ouvrir une fenêtre sur l'actualité. Bon, c'est une façon, en réalité, de leur dire, nous avons ici, en France, des outils, des clés pour comprendre eh bien, le présent et même trouver des solutions concrètes.
Et aux musulmans qui voient dans la laïcité à la française une manière de les empêcher de vivre leur religion, qu'est-ce que vous dites?
Écoutez, il y a d'abord beaucoup de musulmans qui se reconnaissent dans la laïcité.
Pour ça, je dis à ceux d'entre eux qui...
Oui, exactement, et qui sont très heureux. Je vous assure que moi, j'en rencontre tous les jours et qui sont hyper heureux de
qui
pouvoir...
Qui voient une protection?
Absolument, absolument. Et une façon aussi de se soustraire eh bien, de l'origine, de leur milieu, de leur communauté et les autres... En fait, c'est-à-dire les militants politiques, c'est-à-dire les islamistes qui refusent de s'adapter à la modernité, de se soumettre aux grandes règles démocratiques, bien, moi j'ai envie de leur dire qu'ils se trompent de combat, qu'en France, le modèle de la laïcité est le modèle qui a façonné la France. Et par conséquent, il n'est pas là pour disparaître. Il est là précisément pour protéger l'ensemble des citoyennes et des citoyens pour construire du commun.
Vous avez dénoncé à plusieurs reprises dans vos livres ou dans des articles ce que vous appelez l'islamo-gauchisme. Qu'est-ce que vous mettez exactement derrière ce mot?
Alors c'est un concept qui me fait sourire d'abord parce que c'est en fait voilà deux entités qui sont peut-être à des années-lumière l'une de l'autre, c'est-à-dire la gauche, une partie de la gauche et l'islamisme comme doctrine politique, comme régime politique. Et les voilà donc qui s'amourachent l'un avec l'autre parce que ils ont une conception du monde, l'ennemi de mon ennemi, mon ami. Voilà, en fait, en quelque sorte, c'est un peu ça. Et donc, comme le grand ennemi, c'est l'Amérique, c'est Israël, donc on va s'allier les uns les autres pour défendre une posture politique qui ne ressemble pas à la gauche telle que nous l'avons connue. Mais je dois dire qu'il y a une partie de la gauche qui s'est totalement dévoyée, qui s'est communautarisée, qui s'est éloignée de ces grandes valeurs qui ont fait la gauche, notamment ce combat pour la laïcité.
Est-ce que face à l'islam radical, la société doit opposer une laïcité radicale?
Non, écoutez, la laïcité n'est jamais radicale, la laïcité ne peut pas être radicale. La laïcité, c'est la bienveillance, c'est l'ouverture, c'est la générosité. Il ne faut surtout pas faire endosser à la laïcité tous les combats de la société. Le combat contre l'islam politique, contre l'islam radical, il va au-delà de la laïcité. Il s'inscrit, il remet en cause la démocratie, il remet en cause l'égalité entre les femmes et les hommes, il remet en cause la diversité, il remet en cause la possibilité de la rencontre. Donc ça va bien au-delà de la laïcité. Donc moi je dirais qu'il faut protéger la laïcité.
Alors, vous parliez de bienveillance à l'instant. Il y a une forme de bienveillance qui s'exprime parfois à l'égard des femmes voilées, par exemple. Il y a eu ce qu'on appelle le Hijab Day, la journée du hijab, qui a été organisée notamment dans la prestigieuse école Sciences Po. Vous vous êtes fendu d'un billet au vitriol sur cette initiative. Qu'est-ce que ça révèle pour vous, ce type d'initiative?
Non, alors écoutez, ça c'est pas du tout de la bienveillance, ça c'est de la complaisance.
C'est présenté comme la défense de jeunes femmes seraient stigmatisées.
Bien sûr, mais ça c'est de la connerie à l'état pur. Je veux dire, on ne peut pas banaliser écoutez, un vêtement qui porte quand même une charge symbolique qui est très forte. Moi, mon destin, je le reconnais aussi dans la destinée de toutes ces femmes qui se battent dans le monde pour la dignité, pour le respect de leur personne, pour le droit à la vie, pour le droit d'exister, pour le droit de se soustraire donc à, aux normes de leur société aussi. Donc, on ne peut pas porter un symbole qui opprime les femmes un peu partout dans le monde, que l'on pense à l'Iran, que l'on pense à l'Afghanistan, que l'on pense au Pakistan, que l'on pense au Maghreb, où il y a de plus en plus de femmes qui sont obligées de se voiler parce que la pression sociale est terrible et parce que aussi les régimes donc se raidissent et l'islam politique eh bien gagne du terrain chaque jour. Donc on ne peut pas faire fi de tout ça, surtout quand on est un étudiant en Sciences Po quand même.
Est-ce qu'il y a en France, c'est ce que disent certains, une forme d'obsession? Est-ce que les Français sont trop omnubilés par cette question? On l'a vu aussi, par exemple, avec le débat sur le burkini l'été dernier.
Eh bien, moi, je vais vous dire, moi, j'aime ça. Parce que en France, il y a un véritable espace de débat. Bon, alors qui se verrouille un peu parce que il y a cette façon donc de disqualifier l'adversaire, évidemment le cataloguant d'islamophobe. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais moi, je trouve que c'est une forme de vigueur intellectuelle et une forme aussi de bonne santé que la société puisse débattre du voile. Parce que rappelons-nous, en 1989, cette question-là s'est posée. Ça a été donc la brèche. La porte ouverte, et qui aurait dit qu'on en serait là aujourd'hui en 2016 à parler non pas, j'ai envie de dire, du simple voile, mais du voile intégral. Vous vous rendez compte de l'état de régression dans lequel nous sommes ? Aujourd'hui, il y a des régimes totalitaires qui voilent totalement les femmes, et nous, nous sommes ici dans les démocraties à nous poser la question, faut-il ou pas interdire ce vêtement. Moi, je dis, écoutez, encore heureux qu'on puisse l'interdire en France et en Belgique.
Qu'est-ce que les autorités françaises devraient faire, qu'elles ne font peut-être pas aujourd'hui pour lutter contre ce phénomène de l'islam politique?
Écoutez, moi je veux pas donner de leçons, j'ai pas de leçons à donner à personne, mais j'ai quand même aussi une expérience algérienne qui est très intéressante, et me semble-t-il, il ne faut jamais détacher l'idéologie, le politique, du militaire. C'est-à-dire ce que l'on voit aujourd'hui, certes c'est le terrorisme, ce qui nous occupe et nous préoccupe, c'est cette violence qui explose. Alors c'est bien, mais il faut toujours rattacher ceci à un paradigme qui est celui du politique, qui est celui de l'idéologie. Donc moi, ce qui me préoccupe, c'est les espaces perdus de la République. Il y en a un peu partout en France, et il est temps de les regarder, il est temps de faire le bilan de ce qu'on a fait pendant des années, de voir ce qui n'a pas marché pour redémarrer la machine.
Merci Djemila Benhabib.
Merci, bonne journée. À vous.
Merci.